En 5 ans, l'itinérance a malheureusement fait un bond de 44 %. Et selon la directrice générale de l'organisme Le Sac à dos, ce chiffre est peut-être encore plus grand. Voilà pourquoi les services du sac à dos sont encore plus essentiels. On en discute avec la directrice générale, Valérie Méplon. Bonjour Valérie.
Bonjour Chantal.
Et là, quand on a lu ça, un bond de 44 %, mais qu'est-ce qui se passe?
C'est énorme, mais vous avez vu dans l'actualité, comme tout le monde, les problèmes d'éviction, l'inflation, les problèmes de santé mentale, de dépendance aussi. C'est énorme, mais bon, c'est un chiffre, ça donne une indication, mais tous les organismes qui travaillent en itinérance s'accordent pour dire que il y a quand même une partie invisible de l'itinérance qui n'est pas prise en compte avec ce recensement.
Quand on parle d'une partie invisible, on parle de quoi?
On parle de personnes qui échappent au calcul. Vous savez, ce sont des bénévoles qui vont sur le terrain. Ils ne peuvent pas couvrir absolument toutes les zones. On sait pertinemment que pour les femmes, par exemple, pour les personnes non-binaires, il y a peut-être plus de personnes qui se cachent, mais qui sont en situation d'itinérance également.
Bien, on a vu avec un autre invité plus tôt dans la saison qui avait une forme d'itinérance aussi de gens qui dorment dans leur voiture. Donc, ils ne sont pas en situation d'itinérance mobile, mais n'ont plus d'appartement. C'est triste.
Exactement. Puis on en reçoit au sac à dos des personnes cette situation-là. Oui, oui, oui. On en a qui sont sur nos listes d'attente pour le nouvel immeuble qui offrira 32 logements cet automne, cet hiver. Donc oui, oui, c'est une réalité.
Ouais, on aura l'occasion de parler de l'ensemble des projets, du sac à dos, des différents programmes. Mais si on reste un petit peu là, sur la situation, comment se passe ce dénombrement? C'est un petit peu comme l'activité que Statistique Canada fait un peu, nous sonde les gens qui ont une adresse pour voir un peu il y a combien de personnes en général, comment ça se passe du côté des itinérants? Parce que, est-ce qu'ils font partie de la compilation de Statistique Canada ou c'est autre chose, un autre exercice?
Ils en font partie, mais le dénombrement qu'on voit à Montréal, pardon, c'est plus supporté par le CIUS, Centre-Sud de Montréal, la Ville de Montréal également, puis tous les organismes, on nous mobilise pour participer à ce dénombrement. Encore là, on parle de chiffres. Ce sont des choses avec lesquelles je suis toujours un peu mal à l'aise parce que il y a plus de 4000 personnes, presque 5000 personnes qui ont été dénombrées à Montréal. Mais vous savez, il y en aurait seulement 300. Ce serait déjà 300 de mon point de vue. Avec les IFR qu'on connaît, même s'ils sont de moins en moins rigoureux, ça reste épouvantable de rentrer chez soi le soir puis de croiser dans les rues des personnes qui sont à même le sol alors que il fait un froid épouvantable.
Oui, oui. Et il y a toute la situation des tentes aussi qui se... En fait, on l'observe dans plusieurs grandes villes. J'ai déjà été à San Francisco et c'est absolument aberrant de voir des quartiers complets de gens qui vivent en situation d'itinérance dorment dans des tentes. On le voit à Montréal aussi de plus en plus.
On le voit de plus en plus à Montréal. On le voit aussi de plus en plus en région. C'est une situation qui est catastrophique. Et puis, je comprends un petit peu, si vous voulez, il y a du démantèlement, c'est épouvantable. Pour moi, c'est quelque chose d'inacceptable, mais je peux comprendre aussi le problème de sécurité que ça pose, parce que régulièrement, les tentes prennent feu. C'est arrivé juste à côté du sac à dos. Il y en avait une dans l'entrée de l'ancien 281, là, sur Sainte-Catherine. Ça a pris feu. Ce sont des drames humains.
Oui. Mais c'est qu'on utilise à ce moment-là des moyens de se chauffer ou de s'éclairer qui ne sont pas sécuritaires.
C'est exactement ça. Puis il ne faut pas aussi oublier la consommation. Donc, s'allumer, avoir des briquets, des allumettes, etc., ça peut être aussi un départ de feu. Il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. C'est vraiment un problème complexe, mais auquel il faudrait pouvoir apporter une réponse de façon urgente.
Oui, bien, quels sont un peu les différents vecteurs qui amènent, les facteurs qui contribuent malheureusement à l'itinérance? Parce que au sac à dos, vous vous occupez de la situation d'itinérance, mais j'entends le « en voie de l'être ». Ça veut dire qu'il y a certains facteurs qui, malheureusement, contribuent à ce que la situation empire.
Oui, tout à fait. On parle surtout de problèmes de consommation, de dépendance aux drogues, à l'alcool principalement, aux jeux de hasard aussi. Puis il y a les problèmes de santé mentale aussi qui sont gigantesques, pour lesquels on manque terriblement de ressources.
Parlez-nous là, un peu là, de... Si on recule dans l'histoire, on dit qu'il y a eu la désinstitutionnalisation là, qui a comme contribué à tout ça. Donc, ce que c'était, c'est des gens qui étaient autrefois institutionnalisés puis qu'on a décidé de, comme ils n'étaient pas quoi, un risque, de les mettre à la rue.
Là, parlant d'histoire, j'ai du mal un petit peu, j'ai pas les références.
C'est ça. mais grosso modo, c'est des gens qui étaient en institution et que finalement, qui se sont retrouvés à la rue parce que les institutions gouvernementales là, ne pouvaient plus les soutenir ou les accueillir.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, quand quelqu'un sort d'un centre de réadaptation, sort de prison, il y a un manque de ressources pour accueillir ces personnes. Donc... c'est comme un cercle vicieux. On les a peut-être ramassés dans la rue, puis on essaye de les soigner, de les aider, et puis on les remet à la rue. Puis ce n'est pas faute d'essayer de trouver des solutions. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que dans le réseau des services, enfin, de la santé, des services sociaux, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis. Il y a beaucoup de personnes qui se préoccupent de ça, mais à un moment donné, le problème les dépasse aussi. La ville de Montréal a des beaux programmes pour soutenir les organismes qui œuvrent en itinérance. Ce sont des formidables appuis qu'on a, mais c'est sûr que ça reste toujours insuffisant. On a besoin de construire des logements. J'ai l'impression de répéter un petit peu ce qu'on voit et ce qu'on entend partout, mais c'est ça la réalité.
Ben, il y a des services spécifiques dont on va parler tout à l'heure que vous avez mis en place, sur lesquels vous avez été assez pionnier, de ce que je comprends. Parlons peut-être du volet immobilier, là. Vous avez un beau grand rêve qui est assis sur des réalisations concrètes aussi en matière de logements sociaux.
Effectivement, le sac à dos est en train de construire son troisième immeuble de logement. Actuellement, on en a deux qui totalisent 41 logements permanents. Ça, c'est important de le préciser parce que très souvent dans le réseau, on trouve des logements temporaires, des hébergements d'urgence. Mais pour stabiliser les personnes, pour enrayer le phénomène de l'itinérance, à un moment donné, ça prend du logement permanent. Donc, on est très content d'avoir ce nouvel immeuble qui s'élève et qui va nous permettre d'ajouter 32 logements permanents, neufs, meublés, en plein centre-ville de Montréal.
Et en ce moment, il y en a combien là, qui sont habités?
Tous. C'est toujours 100%. Quand un locataire part, le logement reste vacant tout au plus une semaine, le temps de faire un petit peu de rafraîchissement, peinture, etc. Mais ce qui est important aussi de souligner quand on parle de logement communautaire, c'est qu'il y a un besoin de soutien. Parce que mettre quelqu'un dans un logement, ça ne suffit pas. Il faut être capable de l'accompagner. Il y a une phase d'adaptation à cette nouvelle vie qui peut prendre du temps. C'est quelque chose de difficile quand on a connu la rue plusieurs années.
Et des fois, ça peut être un souhait. Mais j'imagine que, ça peut sembler drôle ce que je vais dire, mais il peut y avoir une perte de repère d'avoir maintenant un repère.
Tout à fait, ça c'est une réalité aussi. On le voit dans de nombreux cas de locataires qui sont entrés chez nous.
Qui se sentent peut-être pris même entre les quatre murs alors qu'ils sont habitués de bouger, de se déplacer, d'être au grand air. Donc c'est à la fois réconfortant mais déstabilisant.
Très déstabilisant, puis il n'est pas rare que les personnes continuent à mener une vie un petit peu dans la rue. Ils n'arrivent pas à vivre comme vous et moi dans leur logement. Comme on dit souvent ou on l'entend, il ne suffit pas de sortir quelqu'un de la rue, il faut sortir la rue de la personne.
Ah oui, c'est bien dit. Il n'y a pas aussi le fait que lorsqu'on est à la rue, autant les relations peuvent être difficiles ou on va être dans la sécurité de protéger ses choses et tout, Le fait qu'on est au milieu d'une communauté, on est moins seul que ce qu'on peut observer des gens qui sont en appartement maintenant, entre autres chez les personnes âgées et qui vivent énormément d'isolement. Tandis que dans la rue, si on est avec nos copains, nos même si des fois ça peut être difficile, il reste qu'on n'est pas seul.
Oui, c'est une réalité aussi. Je vous dirais que c'est vraiment du cas par cas. On a des locataires qui ne veulent rien savoir des activités qu'on va leur proposer. Puis d'autres viennent régulièrement, assistent, prennent plaisir à ça, puis reforment une communauté aussi dans le bâtiment. Ils font des sorties ensemble, ils se reçoivent les uns chez les autres pour une partie de cartes ou autre. Donc, c'est vraiment mais un petit peu comme partout, je vous dirais, comme vous et moi. Certaines personnes ont envie d'avoir une vie sociale, d'autres non. Puis c'est correct. Chez nous, vous savez, ils ont un bail, ils sont chez eux. Donc, on respecte ça.
Excellent.
Ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure qu'ils soient en santé puis en sécurité.
Oui. Valérie, on prend une courte pause et ensuite, je voudrais développer davantage sur l'ensemble des programmes que vous offrez outre ce volet de logements sociaux. De retour, héros anonymes avec Valérie Méplon de l'organisme Le Sac à dos. Et on parle évidemment de tous les services qui sont offerts aux personnes en situation d'itinérance ou en voie de l'être. Valérie, je crois que c'est justement lors d'une des activités, un café-rencontre, là, que plusieurs des services essentiels que vous offrez ont été cités comme des besoins essentiels pour les personnes pour qui vous offrez vos services.
Tout à fait, c'était au travers de cafés rencontres qui ont démarré en 1996. Les personnes en situation d'itinérance étaient rencontrées pour savoir quels étaient les besoins pour lesquels aucune réponse n'était proposée. Et ce qui avait été nommé, c'était un endroit où déposer leurs sacs à dos qui contiennent leurs effets les plus précieux, hein, ce qui leur reste.
Alors voilà l'origine du nom.
Exactement, ouais. Le nom du sac à dos est né de là. Puis immédiatement après, le besoin qui a été nommé, c'était d'avoir une adresse pour recevoir ne serait-ce que le chèque d'aide sociale, c'est important. Puis toute autre correspondance aussi, hein. C'est pas rare qu'il y ait des familles qui nous contactent. On ne dévoile jamais qui sont nos usagers. Par contre, on peut nous laisser un message. Puis si la personne est là, on glisse le mot de la famille dans la case postale. Et ça, c'est vraiment aussi un service extraordinaire. Hein. Avoir une adresse, c'est exister en société.
Oui, j'ai lu ça dans un de vos rapports annuels et ça m'a frappée comme phrase. C'est très puissant. Et ce qui est venu en tête en lisant le dossier de recherche, c'est la chanson des colocs qui date de quand même un temps, qui disait, si tu n'as pas d'adresse, tu ne peux pas recevoir de BS. Puis si tu n'as pas de BS, tu ne peux pas avoir une adresse.
Ils avaient tout compris.
Oui, et vous avez compris que justement, ça prenait d'abord quelque chose d'aussi simple que d'avoir une adresse.
Exactement.
D'autres services que vous offrez qui ont été nommés comme des essentiels, qui nous semblent évidents parce qu'on le fait tous les jours, hein? Prendre sa douche.
Avoir des toilettes accessibles, gratuites.
Oui. Ne pas avoir à gérer, avoir peur de déranger dans un restaurant comme un McDonald's ou autre, qui souvent, de plus en plus, malheureusement, vont fermer leurs portes ou vont demander la clé. Et là, ils sont pris dans des situations où...
Voilà, exactement. Puis ça contribue vraiment à un mieux vivre ensemble. Ce sont des facteurs de stigmatisation, hein. L'apparence, le fait de porter des sacs. Généralement, les personnes en situation d'itinérance se font refouler ou ont des regards... peu avenant, je vous dirais, donc de leur permettre de laver leur linge, d'aller, comme on disait, d'utiliser nos salles de bain, notre douche, c'est vraiment essentiel. Puis aussi, ce qui est fort recherché, c'est la nourriture. Donc ça, c'est nos services alimentaires sont très, très importants également. On offre des repas, enfin petit déjeuner et dîner à nos participants, ceux qui sont enregistrés sur les programmes de réinsertion. Et puis, s'il nous reste de la nourriture, ça nous fait plaisir de l'offrir aux usagers qui ne sont pas encore inscrits sur nos programmes.
Je lisais dans votre rapport annuel, entre autres, plus de 1000 services de buanderie, plus de 190 déclarations de revenus. Et dans un des rapports annuels, on parlait de 450 coupes de cheveux. Et là, je comprends que malheureusement, ce service-là, vous ne pouvez plus l'offrir.
Non, hélas, on a perdu notre coiffeur, mais j'en profite pour faire un petit appel. Si un coiffeur nous écoute et partant pour nous offrir ce service-là, c'est toujours très, très apprécié. Vous savez à quel point l'apparence compte dans notre société. Donc,
le message est lancé. Coiffeur, coiffeuse qui aurait du temps libre pour venir aider le sac à dos, vos services sont attendus. Et j'ose penser qu'aux héros anonymes, il y a des gens qui se découvrent une envie d'aider à travers cette émission-là et qui se disent « Wow, c'est tellement des services essentiels que je vais aller donner du mien. » Donc, c'est un peu pour ça aussi, pour permettre aux organismes de se faire connaître, mais permettre peut-être à des gens qui cherchent peut-être un appel, de donner plus de sens à leur vie, de se dire « Tiens, cette cause-là me touche et je vais contribuer. » Donc, voilà, l'appel est passé. Il y a un autre appel qui est important de faire. Peut-être s'il y a des auditeurs ou on connaît peut-être des donateurs potentiels pour le projet là, que vous travaillez d'arrache-pied à voir sa réalisation, votre troisième édifice?
Oui, tout à fait, parce que l'édifice, en fait, va nous permettre de relocaliser le centre de jour, qui est le cœur de nos services. Au lieu d'être dans un sous-sol d'église qui n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, là, on va se trouver sur un rez-de-chaussée et un sous-sol accessible avec un ascenseur. Et donc, c'est ça. On a une campagne de financement pour nous aider à ouvrir ce centre de jour. Et puis, écoutez, il faut encore qu'on trouve $1 million, si possible, d'ici la fin de l'année. Mais chaque don compte. Oui. Et puis, même pour la mission, pour les services essentiels qu'on offre, offrir du détergent à lessive, du savon pour la douche. Je veux dire, vraiment, les besoins sont immenses. Puis... c'est ça, la générosité n'a pas de chiffres pour moi, tant mieux si les personnes peuvent contribuer pour beaucoup, mais des petits dons nous touchent énormément et nous appuient aussi.
L'adresse du site internet, Valérie, si on veut contribuer?
C'est le www.lesacado.org. Puis il n'y a pas de tiret d'union, rien, c'est vraiment le sac à dos, tout collé.
Dans votre rapport annuel, il y a des beaux portraits d'utilisateurs. J'ai lu l'histoire de Mario, l'histoire de Michel. Et bon, Michel qui parle de l'importance de la douche pour lui, puis de la machine à café, qui est vraiment l'endroit... on dit souvent que c'est très rassembleur dans les bureaux, la machine à café. Mais j'imagine d'avoir accès à un café chaud, ça fait du bien.
Oh oui, c'est vraiment très, très populaire, surtout en hiver. Hein. Puis c'est aussi... on offre des soupes tout l'hiver, là. Et oui, on a vraiment des usagers, des participants qui sont formidables. Vous citiez Michel. Michel est là pour aider les usagers avec nous. Il est très accueillant. Il prend son rôle au sérieux depuis de nombreuses années. Ce sont vraiment des personnes très touchantes et je me sens vraiment privilégiée de pouvoir les côtoyer.
Oui. Parce que je comprends qu'il y a une forme de... On entre peut-être avec tranquillement avec du dépannage, de l'accueil, on progresse. Mais il y a tous ces programmes-là qui font en sorte, notamment la Brigade verte. Donc ça, c'est un programme qui est orchestré avec la Ville de Montréal?
Je dirais pas orchestré. La Ville de Montréal, nous offre la possibilité de travailler pour embellir la
orchestré
ville.
Orchestré par vous.
Voilà. Mais c'est un formidable programme de réinsertion par le travail. C'est vraiment la possibilité pour les personnes de se remettre dans le bain, de se réhabituer à avoir un horaire, un encadrement. Et bien sûr, il y a énormément de soutien psychosocial qui se fait. On a un père aidant qui est sur la Brigade verte et une intervenante. Et c'est vraiment une magnifique équipe. On voit les personnes reprendre confiance. Vous savez, le travail, pour moi, c'est central aussi dans la société.
Ça fait partie d'une forme de dignité aussi.
Exactement. Hein. Ça nous permet d'avoir de quoi subvenir à nos besoins, puis là aussi d'exister en société.
Et donc, c'est vraiment le nettoyage des rues, la Brigade verte?
Des rues et des parcs, oui, oui. On ramasse des détritus, pardon, des seringues aussi, très important. Là, on opère sur le secteur du village, plus le parc Émilie Gamelin, puis tous les parcs attenants dans le faubourg Saint-Laurent.
Et dites-moi, si on parle du lien avec la ville de Montréal, comment, la question ne s'adresse pas à vous, mais c'est une interrogation, dans le fond, je me fais, comment ils ont géré ça avec leur syndicat de col bleu?
Il faudrait leur poser la question à eux. Mais écoutez, ça fait des années que ça existe, donc... Puis je pense que les cols bleus, quelque part, doivent être contents aussi de voir que des personnes peuvent se réinsérer grâce à cette entente avec la ville. On ne vient pas voler du travail, on vient faire un complément à ce qui existe. Puis vous savez, oui, on ramasse des détritus avec la Brigade verte, mais on approche aussi des personnes en situation d'itinérance. On vérifie si elles vont bien et on les oriente vers notre organisme. Le but, c'est vraiment de pouvoir aider aussi la clientèle qu'on souhaite voir fréquenter notre centre de jour.
Et j'imagine qu'une personne qui se sort tranquillement de l'itinérance, qui fait partie de la Brigade verte, est encore à même, encore plus davantage d'approcher ces personnes-là parce qu'elles connaissent la réalité. J'imagine qu'elles savent trouver les mots pour parler pour que ça ne semble pas qu'on fait la morale ou qu'on a une position supérieure. J'imagine qu'il y a un contact qui est vraiment aidant parce qu'ils comprennent la réalité.
Ça fait une réelle différence. Puis oui, il n'y a rien de tel. J'ai fait une tournée de Brigade verte et puis j'ai pas du tout la même approche. Hein. Les personnes qui ont connu ça sont vraiment mieux placées pour entrer en contact, juste ça, là, les premiers mots échangés, etc.
Comme quoi, par exemple, qu'est-ce que vous dites, j'ai pas la même approche, qu'est-ce qui a changé dans votre façon d'être, le comportement ou le vocabulaire? Je pose la question parce que peut-être des fois, on voudrait aider, puis on sait pas trop comment aborder la personne. C'est quoi la bonne façon de les aborder?
Déjà, moi je vais me fier à ce que notre père aidant nous dit là, c'est de commencer par dire bonjour, de faire un sourire pour établir un contact humain et chaleureux. Mais vous voyez, il y avait une personne qui était sur la rue, elle nous parlait. J'étais préoccupée parce qu'une voiture s'en venait et j'invitais cette personne à monter sur le trottoir pour pas qu'elle se fasse écraser puis refuser. Ah. Et après, le père aidant m'a expliqué qu'il était en train de fumer et donc sa perception à lui, c'est qu'il voulait pas nous gêner avec la fumée de cigarette. Ah, et que c'était pour ça qu'il préférait rester sur la rue, même si ça le mettait en danger. Donc, vous voyez, des petites choses comme ça qu'on ne sait pas. Puis on a participé au programme, on participe encore au programme Immersion avec le SPVM, qui est très intéressant. Et puis, notre père aidant qui accompagne les jeunes recrues du SPVM leur montre comment approcher des personnes qui sont par terre. Il faut faire attention déjà à sa propre sécurité parce que les personnes qui dorment dehors ont souvent des objets tranchants pour leur sécurité.
Protection, ouais.
Et donc de se pencher vers eux pour leur demander si tout va bien. Il ne faut surtout pas faire ça, il ne faut pas les toucher comme ça, il faut garder une distance de sécurité, puis parler assez fortement. Ouais. Si la personne ne réagit pas, peut-être avec le pied, essayer de bouger un petit peu la personne pour qu'elle se réveille et qu'elle nous réponde.
Et là, on s'entend que ce n'est pas parce qu'ils sont dangereux, mais c'est parce qu'ils sont en situation de protection, parce qu'ils sont habitués à garder leurs choses. Donc, j'imagine le fait d'avoir accès au casier aussi, ça doit diminuer ce stress-là de savoir que le peu de choses qu'ils ont, au moins, est en sécurité.
Oui, mais quand ils dorment dehors, leur vie n'est pas en sécurité.
Oui. Ben voilà que se conclut notre entrevue. Donc, j'invite toute personne qui a été touchée par cet entretien, à visiter votre site Internet et à soutenir ce projet de troisième édifice pour 32 nouvelles personnes qui auront l'occasion d'avoir une vie plus ancrée dans un quotidien et de soutenir l'ensemble de vos services qui sont offerts. Merci beaucoup, Valérie Méplon, d'avoir été avec nous.
Un immense merci à vous, Chantal.
Donc, l'organisme s'appelle Le Sac à dos. Vous allez sur leur site Internet, vous allez retrouver plein de contenus également, des entrevues, des vidéos et autres. C'est une œuvre à soutenir. Merci.